Vieux habits, vieux galons. Le marché qui s'élève sur l'emplacement de la tour du Temple, à Paris, est un des coins les plus pittoresques de la capitale. Au rez-de-chaussée, une nuée de marchandes, dont les étalages sont presque aussi coquets que ceux des magasins de nouveautés, environne, assaille, tiraille en tous sens le malheureux visiteur. Les vêtements qui se vendent là sont propres et même élégants, et l'on prétend que beaucoup de petits bourgeois aisés ne vont pas ailleurs pour remonter leur garde-robe. Mais au premier étage, l'aspect est bien différent. Les marchandises sont étalées sur le carreau. Vêtements sordides, passés de mode depuis longtemps, usés jusqu'à la corde. Et cependant, il se fait là aussi des affaires considérables. Et tel de ces marchands de vieux habits, vieux galons, a su mettre de côté une fortune rondelette. Celui que le crayon de notre excellent ami M. Eugène Burnand a saisi sur le vif, est bien le type de la corporation. Il est vieux et vend des vieilleries, c'est dans l'ordre des choses. Son expression narquoise, l'air dont il étale la redingote fripée qu'il tient en main, montre qu'il est revenu de tout et qu'il connaît tous les revers de la société. D'un coup d'œil, il juge de la valeur d'un habit et de l'homme qu'il porte. Il sait distinguer la vraie richesse de la fausse, comme un galon d'or et un galon de cuivre. Et que d'histoire il raconterait le bonhomme si on le faisait parler. Il en a une pour chaque costume qu'il offre à vendre. Grandeurs et décadences, folie et misère, drame et comédie, tout cela est entassé pêle-mêle à ses pieds sur le carreau du temple. Voici, par exemple, la défroque du dernier Mardi Gras. C'est une robe de colombine, froissée, défraîchie, lamentable. Il y a 2 mois à peine, cette robe eut beaucoup de succès dans les bals masqués. Mais dès les premiers jours de carême, Colombine, grelottante, est venue la vendre. Elle était malade et toussait. Aujourd'hui, où est-elle? Le bonhomme vous répondra avec un haussement d'épaule. Où voulez-vous qu'elle soit? Sinon à l'hôpital. 9 fois sur 10, c'est là qu'elle finisse. Voici un uniforme complet d'officier. Un sous-lieutenant en détresse est venu le vendre ici, non sans avoir arraché du collet le numéro du régiment. Que voulez-vous? C'était un joueur. Il avait perdu la forte somme. Il lui fallait de l'argent à tout prix. J'ai eu pitié de lui, monsieur, et je lui ai payé ses galons plus qu'ils ne valent, ajoute le vieux philosophe. Il faut bien faire quelque chose pour l'armée française. Un vieil habit de soirée attire nos regards. Il est râpé, il a été noirci sur les coutures avec de l'encre, et pourtant celui qui l'a porté fut un homme d'honneur. Pauvre écrivain qui n'a jamais voulu prostituer sa plume et a payé son courage de sa vie, car il est mort, usé par le travail, et sa veuve n'a pu payer ses funérailles qu'en vendant sa défroque. Quiconque veut prendre une leçon de choses, quiconque veut avoir de l'existence humaine une opinion véritable, doit aller faire un tour au carreau du temple. Les gloires et les vanités du passé viennent tout échouer là. Et qu'elles paraissent misérables! Vaut-il la peine de commettre tant de lâchetés pour paraître quelque chose, et ne vaut-il pas mieux s'efforcer d'être quelqu'un? À Londres, il existe un colossal musée de figures de cire fondé par une femme de la Suisse française, Madame Tussaud, il y a plus de 50 ans. Ce musée est devenu, pour les Anglais, presque une institution nationale. Il ne se produit aucune illustration en aucun genre qui ne soit reproduite là. M. Gladstone y coudoie M. Disraeli, et tous les deux, dans leur impassibilité de statut, font bon ménage avec M. Bradlaff. Tous les partis politiques et religieux y sont représentés. On y voit nombre de grands personnages, la reine Victoria et sa cour, puis tous les rois et toutes les reines d'Europe. Une salle basse éclairée par des lampes funèbres porte le nom de « Chambre des horreurs ». Il faut payer un supplément pour entrer là. On y voit la longue et répugnante galerie des criminels anglais, empoisonneurs, brigands, assassins de toute espèce. Dans un coin, une potence, laquelle, dit-on, a servi, ce qui ajoute à l'intérêt avec lequel ces naïfs visiteurs la regardent. Mais quel est ce cadavre, étendu sur ce lit de camp, au milieu de la chambre? Je ne m'y trompe pas, c'est Napoléon, le grand Napoléon tel qu'il était à Sainte-Hélène. Et voici une relique d'un prix inestimable, la redingote grise, celle qu'il porta, authentique, réelle. Ô vanité des vanités, soyez un conquérant, cueillez des lauriers sous tous les cieux, faites trembler peuples et rois pour qu'il ne reste de vous qu'un vieil habit couvrant votre effigie de cire dans la chambre des horreurs de Madame Tussaud. Ah, combien différente est la gloire que Jésus-Christ a conquise pour lui et pour les siens! C'est une gloire pure, elle n'est souillée d'aucun mauvais souvenir, elle n'est ternie d'aucune ombre, c'est la gloire d'un agneau immolé et qui n'a jamais versé d'autre sang que le sien. C'est la gloire de l'innocence qui s'est volontairement offerte en expiation pour le crime. Et c'est une gloire éternelle. Le vêtement du Christ, celui avec lequel il est sorti vainqueur de la tombe, et qu'il porte depuis 1800 ans, est fait de lumière et de sainteté. Il est indestructible. Jamais non plus elles ne s'useront, les robes blanches dont il revêtira les siens à leur entrée dans la salle des noces. Venez donc, vous tous qui êtes dégoûtés des vaines joies de la terre, vous tous qui redoutez l'instant où il vous faudra sortir de ce monde comme vous y êtes entrés. Achetez à Jésus-Christ, qui donne à quiconque demande, sans autre paiement que la repentance et la foi, des vêtements blancs, afin que vous en soyez vêtus et que la honte de votre nudité ne paraisse point, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Voici des paroles qui ont pour celui qui écrit ces lignes une valeur infinie, car c'est d'elles que Dieu s'est servi pour le convertir. Puisse-t-elle avoir le même résultat pour quelques-uns de mes auditeurs? Zacharie, chapitre 3, verset 4. Puis l'Éternel me fit voir Jéhoshua, le grand sacrificateur qui était debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui était debout à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime rudement, Satan. Oui, que l'Éternel qui a élu Jérusalem te réprime durement. Celui-ci n'est pas un tison retiré du feu. » Et Jéhoshua était vêtu d'habits sales et se tenait debout devant l'ange. Et l'ange prit la parole et parla à ceux qui étaient devant lui en disant, « Ôtez-lui ses habits sales. » Puis il lui dit, « Voici, j'ai ôté de dessus toi ton péché, et je t'ai vêtu d'habits magnifiques. »